cieux, l'astre, lui, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini, c'est l'amour infini.
La bibliothèque orbitale, épisode de Noël. Résumé de l'épisode précédent, la situation est grave et même désespérée. On est toujours sans nouvelles des 450 passagers du trampoline disgracieux, le vaisseau spatial assurant la navette entre Proxima du Centaure et Aix-en-Provence. Envoyé sur place pour enquêter, Pitou, l'intrépide gladiateur cosmique, a découvert un vaisseau inoccupé. Néanmoins, son flair légendaire d'intrépide gladiateur cosmique lui a rapidement permis de découvrir quelques indices, notamment cette persistante odeur de résine qui flotte dans les coursives du navire, ou ces aiguilles de pin disséminées ici ou là. « Bon sang, mais c'est bien sûr !» s'exclame Pitou, qui s'est fait offrir l'intégrale des enquêtes du commissaire Bourrel en Prismo HD 3D à Noël dernier. C'est forcément un coup des infâmes hommes sapins de Krishmash 25, un peuple barbare et brutal qui, à l'occasion d'une de leurs fêtes impies, a pris l'habitude de s'attaquer à de pauvres humains sans défense, de les kidnapper, de les planter dans leur salon, de les décorer avec une affreuse bimbeloterie clinquante et clignotante, avant de pratiquer face à leur corps sans défense les plus ignobles des rites sacrilèges dont ils sont capables. « Ça va chier !» jure Pitou, à qui on a également offert l'intégrale de la filmographie de Chuck Norris en virtuodisque. Le voilà donc prêt à sauter dans son vaisseau spatial, le pinson bedonnant, pour aller régler leur compte une bonne fois pour toutes aux hommes sapins de Krishmash 25, lorsque soudain, pendant ce temps, à bord d'une station spatiale russe abandonnée, le narrateur s'apprête à fêter seul les fêtes de fin d'année, à s'offrir à lui-même des bouteilles de champagne qu'il s'empressera de vider pour oublier qu'il est seul, à trinquer, seul encore, seul toujours, à la nouvelle année, à boire comme un trou pour oublier qu'il tourne comme un con dans une station spatiale russe abandonnée, comme un con et seul. Pour tenter de se consoler, il s'est plongé dans la lecture des œuvres de deux auteurs récompensés cette année par le prix Rosny-Aîné et le prix Julia Verlanger, Laurent Weil et Yoss. Cet été, les fans présents à la 38e convention francophone de science-fiction, qui se tenait à Tilf, ont donc décerné le prix Rosny-Aîné à Laurent Weil pour son roman Les Pilleurs d'âmes, paru en 2010 aux éditions Ad Astra. Un choix qui peut paraître surprenant, d'autant plus que cette année, de Xavier Méjean à Michel Jeury en passant par à peu près tous les autres, il y avait du lourd au programme. Les Pilleurs d'âmes est d'abord et avant tout un roman d'aventure et une histoire de pirates, un genre qui a décidément le vent en poupe ces derniers temps, auquel se sont notamment essayés Valerio Evangelisti avec Tortuga ou Michael Crichton avec Pirates, sans parler du déchronologue de Stéphane Beauverger. L'action se situe donc au XVIIe siècle, dans les Caraïbes, et l'auteur y passe en revue toutes les scènes obligées du genre. Bataille navale, abordage, pillage, sans oublier les inévitables fêtes où l'alcool coule à flot et où les serveuses ont intérêt à porter une culotte blindée. L'ensemble fonctionne d'autant mieux qu'on sent que Laurent Weil a bien potassé son sujet. Il parvient à rendre ses scènes réalistes sans aller aussi loin dans le sordide que Valerio Evangelisti, et surtout il ne se contente pas d'enfiler les perles et les clichés les plus risibles comme Michael Crichton dans son navrant pirate. Mais, me direz-vous, pourquoi les votants du Rosniéné sont-ils allés récompenser un roman de pirates ? On sait bien que l'alcool a tendance à couler à flot lors des conventions de science-fiction, mais quand même. En fait, l'une des particularités des Pires Dames, c'est que son narrateur, Carban, est un extraterrestre. Et que le roman s'appuie sur une idée plutôt rigolote. Des margoulins intergalactiques ont eu l'idée de génie de recruter leurs pirates de l'espace parmi les pirates des mers de mondes moins évolués. Et les voilà donc qui écument les planètes à la recherche de nouvelles recrues, un trafic que Carban est chargé de faire cesser une fois pour toutes. Même si l'idée est amusante, cet aspect du roman n'est finalement pas celui qui retient le plus l'attention. Le personnage de Carban n'a pas vraiment la carrure pour mener à bien le type de mission qu'on lui a confiée, et les apartés au cours desquels l'auteur laisse entrevoir la civilisation à laquelle il appartient n'apportent pas grand-chose au roman. En fait, si Les Pilleurs d'âme est une lecture tout à fait plaisante, c'est avant tout parce qu'il s'agit d'un récit d'aventure maritime très bien mené, vivant et énergique. Et en comparaison, son côté SF est presque anecdotique. Alors, Les Pilleurs d'âme méritait-il de recevoir le prix Rosniéné ? Parmi ses concurrents, il se trouvait des œuvres plus ambitieuses, plus abouties, plus originales, voire les trois à la fois. Mais cette récompense n'a rien de scandaleux non plus. Les votants au Rosny ont souvent accordé leur suffrage à une forme de science-fiction plus populaire, et Les Pilleurs d'âme trouve assez naturellement sa place dans le palmarès, quelque part entre Delta d'Alain Le Bussy et L'équilibre des paradoxes de Michel Pagel. Puisqu'on en est à parler de Laurent Whale, évoquons deux autres de ses romans qui ont atterri sur les tables des libraires cette année, Le Chant des Psychomorphes et Les Étoiles sans balance. On passera assez vite sur le premier, son premier roman réédité en poche aux éditions Locomodo. D'un premier roman, il a à peu près tous les défauts et quasiment aucune qualité. L'histoire est celle d'un type quelconque, obligé de tout laisser derrière lui et de fuir les autorités. Embringué dans un complot interplanétaire auquel il ne pige pas grand-chose, et le lecteur guère plus, le voilà emporté dans une succession de scènes d'action et de péripéties diverses, mais pas vraiment variées. Tout ça fonctionne à vide, les explications à tout ce bazar sont bâclées en quelques pages dans le dernier chapitre, et basta. En revanche, Les Étoiles sans balance, paru en mai dernier chez Rivière Blanche, est nettement plus intéressant. Il s'agit d'un roman post-apocalyptique situé une vingtaine d'années dans le futur, après que la civilisation s'est effondrée suite à une succession de crises sociales plus calamiteuses les unes que les autres. Les nations n'existent plus, seules certaines villes sont parvenues à préserver un semblant d'autorité et d'organisation, et constituent autant d'îlots de civilisation dans un monde retombé en pleine barbarie. Mais même dans ces lieux relativement sécurisés, ses habitants ne peuvent espérer plus que vivre au jour le jour, en recyclant et en récupérant ce qu'ils peuvent parmi les ruines de l'ancien monde. Et comme si les conditions de vie n'étaient pas assez difficiles, l'avenir promet d'être pire encore puisqu'apparaît une nouvelle menace, en provenance du Nord, capable de détruire tout ce que ces survivants ont eu tant de peine à bâtir. Avec Les Étoiles sans balance, Laurent Whale confirme qu'il est bien l'héritier d'une certaine SF populaire, nourrie au roman de la défunte collection Anticipation du Fleuve Noir. À la lecture de son roman, les noms de Gilles Thomas et surtout de PJ Hérault viennent tout de suite à l'esprit. Après les aventures maritimes des Pilleurs d'âme, c'est cette fois dans les airs que se déroule une bonne partie des Étoiles sans balance. Là encore, l'auteur a visiblement bien étudié son sujet et parvient à nous dépeindre de manière réaliste les mésaventures aériennes de ses héros, sans jamais alourdir son récit par de longues explications techniques. Outre un bon dosage entre scènes d'action et moments plus calmes, Laurent Whale parvient à donner une vraie humanité à ses différents personnages, une humanité qui vient contrebalancer la violence de l'univers dans lequel ils vivent. C'est probablement ce qui fait des Étoiles sans balance le roman le plus abouti de l'auteur à ce jour. En prime, on notera que c'est l'excellent Jim Tagg qui a non seulement signé la couverture, mais également plusieurs illustrations intérieures. Une raison de plus de se procurer ce fort sympathique bouquin. Thank you.
baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Oh baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight. Yeah, show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. My loneliness is killing me. I must confess, I still believe. When you're not with me, I lose my mind. Give me a sign.
Hit me, baby, one more time.
Autre écrivain récompensé cette année, cette fois par le prix Julia Verlanger, l'auteur cubain Yos pour son roman Planète allouée aux éditions Nemos. Yos avait déjà vu quelques-uns de ses textes traduits en France au début de la décennie, et fin 2009 était paru chez Rivière Blanche un premier recueil, Interférence, récompensé alors par le Grand Prix de l'Imaginaire de la meilleure traduction pour Sylvie Miller. Interférence était une collection de contes politiques et satiriques où il évoquait avec une bonne dose d'ironie les relations pour le moins compliquées entre son pays et les États-Unis et où il mettait en scène des situations joyeusement absurdes, symptomatiques d'un pays gouverné en dépit du bon sens. Un recueil bien évidemment jamais publié à Cuba. Par certains points, Planète allouée est assez semblable à Interférence. Yos continue d'y dénoncer la situation politique et sociale dans son pays, en élargissant cette fois la situation de Cuba à l'ensemble de la planète. La Terre est ainsi devenue un monde touristique pour aliens en goguette, sous la menace constante de ses visiteurs très modérément philanthropes, et ses habitants maintenus dans un état de précarité permanent. Au fil des 7 récits qui composent Planète allouée, on suit donc le destin d'une poignée de personnages emblématiques de la situation de ce monde, sous la domination d'une puissance capable de l'écraser à tout instant. Travailleuse sociale, prête à tout pour se sortir de la misère, scientifique victime de l'absurdité du fonctionnement de cette société, agent de la sécurité planétaire, haï par ses concitoyens et méprisé par ses maîtres, artiste, gamin des rues et autres marginaux. L'ironie d'Interférence a cette fois totalement disparu, au profit d'un ton très sombre et désabusé. Pas de happy end à attendre de ces drames ordinaires dans un monde sans futur et au présent répugnant, pour reprendre les mots de l'auteur. Et pas non plus d'espoir de vaincre le système mis en place par les extraterrestres. Au mieux, certains des personnages pourront espérer se tirer de la merde dans laquelle l'humanité patauge, à condition d'abandonner toute morale et de faire preuve d'une bonne dose de cynisme, faute d'autres solutions. Les différents personnages que met en scène Yos sont avant tout des témoins de ce monde, et Planète allouée finit par apparaître comme une collection de témoignages plutôt que de nouvelles. Le récit y est souvent réduit à la portion congrue, et les personnages, trop souvent restreints à leur unique rôle de commentateur de la société qui est la leur, manquent un peu de consistance. Du coup, Planète allouée, plus encore qu'Interférence, vaut avant tout pour son discours politique, et pour la valeur de son témoignage vécu de l'intérieur d'une société qui nous apparaît totalement étrangère, davantage que pour ses qualités littéraires proprement dites. On aimerait bien maintenant lire Yos dans un autre registre, pour pouvoir juger vraiment de ses qualités d'écrivain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a envie de pouvoir continuer à lire Yos en France.
I'm a good guy for a girl. So won't you look my palm over? I've got time for a chat. So won't you tell me my future? I'm gonna break down at 50 and I'm not quite a stallion. I'm a good guy for a gal and I'm mentally slipping. Oh yeah, oh yeah, what's that you say?